Maturité professionnelle 2022, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'examen de compréhension auditive. Dialogue 1. Vous entendrez l'enregistrement en deux parties. D'abord la première partie deux fois, et ensuite la deuxième partie que vous allez également entendre deux fois. Vous avez 40 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A1. Première écoute de la première partie. Née en 1988 à Genève, la boxeuse Ornella Domini est championne d'Europe catégorie welter. Elle a commencé la boxe en 2007 et elle est devenue professionnelle en 2013. Son palmarès chez les pros, 15 victoires pour 17 combats. Elle va nous parler d'elle et de ses différentes passions. Ornella Domini, bonjour. Quand vous avez commencé la boxe, comment vos parents l'ont-ils appris?
J'étais assez discrète au début, donc quand j'ai fait mon premier combat, mon père l'a appris par le journal.
Pourquoi avez-vous été aussi discrète?
Quand je faisais du foot, mon père était mon entraîneur et il prenait pas mal de place au sein de l'équipe. Quand on est adolescent, on a envie d'indépendance. Et je voulais un sport à moi que personne dans la famille n'avait pratiqué. Je ne l'ai pas dit pour qu'on ne m'ennuie pas trop et que je puisse me réaliser seule dans ce sport.
Est-ce que les boxeurs sont des gens plus violents que les autres?
Non, au contraire. Les boxeurs sont des gens qui canalisent plus. Moi, en tout cas, plus je m'entraîne, plus je prends les problèmes avec du recul. Je pense que les gens colériques et impulsifs ne pratiquent pas de sport de combat.
Vous avez déjà eu beaucoup de succès, mais il vous reste des objectifs. Vous avez toujours cette envie de vous battre contre une championne du monde?
Bien entendu. Pour me préparer, quand c'est possible, mon manager organise des combats avec d'autres boxeuses professionnelles. Elles doivent avoir un certain niveau, évidemment. Les meilleures viennent d'Europe de l'Est. Le problème principal, ce sont les frais de logement et de voyage que cela implique. On a besoin de sponsors pour payer tout ça.
Vous êtes boxeuse professionnelle, mais vous exercez aussi un autre métier. Parlez-nous-en.
Je travaille dans le domaine de la sécurité pour une entreprise de surveillance. C'est ce qui me permet de payer mes études. De plus, je suis grenadière dans la police militaire. Mon objectif est de travailler pour l'État suisse au DPR, le département de protection rapprochée. Je me forme tout le temps. J'aime apprendre et m'instruire. Je n'ai pas peur de m'investir à fond.
Vous travaillez aussi la nuit ?
Ça ne m'a jamais dérangé de travailler la nuit parce que ça n'a jamais été une contrainte. La nuit est inspirante, c'est une autre ambiance, l'atmosphère est différente. Quand vous rentrez du travail à 7 heures, vous croisez ceux qui y vont à leur tour. C'est comme si le temps était suspendu.
Votre organisme supporte-t-il bien le régime travail de jour et travail de nuit?
Oui, il y est habitué, mais ça exige une grosse résistance au stress. L'important, comme dans beaucoup de choses, c'est de se reposer. Car si la fatigue est là, elle amène souvent la maladie.
Vous avez 40 secondes pour répondre aux questions ou aux affirmations de l'exercice A1. Deuxième écoute de la première partie. Née en 1988 à Genève, la boxeuse Ornella Domini est championne d'Europe catégorie welter. Elle a commencé la boxe en 2007 et elle est devenue professionnelle en 2013. Son palmarès chez les pros, 15 victoires pour 17 combats. Elle va nous parler d'elle et de ses différentes passions. Ornella Domini, bonjour. Quand vous avez commencé la boxe, comment vos parents l'ont-ils appris?
J'étais assez discrète au début, donc quand j'ai fait mon premier combat, mon père l'a appris par le journal.
Pourquoi avez-vous été aussi discrète?
Quand je faisais du foot, mon père était mon entraîneur et il prenait pas mal de place au sein de l'équipe. Quand on est adolescent, on a envie d'indépendance. Et je voulais un sport à moi que personne dans la famille n'avait pratiqué. Je ne l'ai pas dit pour qu'on ne m'ennuie pas trop et que je puisse me réaliser seule dans ce sport.
Est-ce que les boxeurs sont des gens plus violents que les autres?
Non, au contraire. Les boxeurs sont des gens qui canalisent plus. Moi, en tout cas, plus je m'entraîne, plus je prends les problèmes avec du recul. Je pense que les gens colériques et impulsifs ne pratiquent pas de sport de combat.
Vous avez déjà eu beaucoup de succès, mais il vous reste des objectifs. Vous avez toujours cette envie de vous battre contre une championne du monde?
Bien entendu. Pour me préparer, quand c'est possible, mon manager organise des combats avec d'autres boxeuses professionnelles. Elles doivent avoir un certain niveau, évidemment. Les meilleures viennent d'Europe de l'Est. Le problème principal, ce sont les frais de logement et de voyage que cela implique. On a besoin de sponsors pour payer tout ça.
Vous êtes boxeuse professionnelle, mais vous exercez aussi un autre métier. Parlez-nous-en.
Je travaille dans le domaine de la sécurité pour une entreprise de surveillance. C'est ce qui me permet de payer mes études. De plus, je suis grenadière dans la police militaire. Mon objectif est de travailler pour l'État suisse au DPR, le département de protection rapprochée. Je me forme tout le temps. J'aime apprendre et m'instruire. Je n'ai pas peur de m'investir à fond.
Vous travaillez aussi la nuit?
Ça ne m'a jamais dérangé de travailler la nuit parce que ça n'a jamais été une contrainte. La nuit est inspirante, c'est une autre ambiance, l'atmosphère est différente. Quand vous rentrez du travail à 7 heures, vous croisez ceux qui y vont à leur tour. C'est comme si le temps était suspendu.
Votre organisme supporte-t-il bien le régime travail de jour et travail de nuit?
Oui, il y est habitué, mais ça exige une grosse résistance au stress. L'important, comme dans beaucoup de choses, c'est de se reposer. Car si la fatigue est là, elle amène souvent la maladie.
Vous avez 40 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A1. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Vous avez 30 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A2. Première écoute de la deuxième partie. Êtes-vous armé dans votre travail?
Oui, au bureau comme à l'extérieur. L'arme n'est pas dangereuse en soi, c'est l'usage qu'on en fait qui l'est ou qui peut l'être. Beaucoup de gens se méfient des armes, alors que c'est des personnes qui les portent dont ils devraient avoir peur.
Vous êtes en possession d'un bachelor en radiologie médicale. Vous avez travaillé à l'hôpital universitaire de Genève. Alors pourquoi avez-vous changé d'orientation?
La radiologie, ça me plaisait bien, Mais j'avais envie d'une vie à la James Bond. Alors, j'ai changé de métier. Dire qu'à la base, la sécurité n'était qu'un job d'été.
Vous n'avez pas peur dans votre job?
Des risques? Il y en a partout. J'en ai conscience au quotidien. Pour moi, le risque est permanent dans mon travail comme dans la boxe. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le plaisir que me procure mon travail et mon sport dépasse tout.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie?
Tout. J'ai toujours pu faire ce que je voulais faire. J'ai eu la possibilité de devenir et d'être la personne que je veux être. Pour moi, tout le monde peut devenir ce qu'il souhaite. Après, tout est une question d'envie et de volonté. Nous avons tous du potentiel.
Ornella Domini, merci pour cette interview. Vous avez 40 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A2. Deuxième écoute de la deuxième partie. Êtes-vous armé dans votre travail?
Oui, au bureau comme à l'extérieur. L'arme n'est pas dangereuse en soi, c'est l'usage qu'on en fait qui l'est ou qui peut l'être. Beaucoup de gens se méfient des armes, alors que c'est des personnes qui les portent dont ils devraient avoir peur.
Vous êtes en possession d'un bachelor en radiologie médicale. Vous avez travaillé à l'hôpital universitaire de Genève. Alors pourquoi avez-vous changé d'orientation?
La radiologie, ça me plaisait bien, mais j'avais envie d'une vie à la James Bond. Alors j'ai changé de métier. Dire qu'à la base, la sécurité n'était qu'un job d'été.
Vous n'avez pas peur dans votre job?
Des risques? Il y en a partout. J'en ai conscience au quotidien. Pour moi, le risque est permanent dans mon travail comme dans la boxe. Mais ce qui est vraiment important, c'est que le plaisir que me procure mon travail et mon sport dépasse tout.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie?
Tout. J'ai toujours pu faire ce que je voulais faire. J'ai eu la possibilité de devenir et d'être la personne que je veux être. Pour moi, tout le monde peut devenir ce qu'il souhaite. Après, tout est une question d'envie et de volonté. Nous avons tous du potentiel.
Ornella Domini, merci pour cette interview. Vous avez 40 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A2. Nous passons maintenant au dialogue 2. Vous entendrez l'enregistrement en deux parties. D'abord la première partie, deux fois, et ensuite la deuxième partie que vous allez également entendre deux fois. Vous avez 45 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A3. Première écoute de la première partie. C'est une habitude dans la plupart des familles. Selon une étude menée en 2017 en Suisse, Environ la moitié des enfants de 5 à 7 ans et 90% des enfants de 8 à 11 ans reçoivent de l'argent de poche chaque semaine. Sabrina Wachter, bonjour. Vous êtes responsable du programme Compétences financières chez Pro Juventute. Pourquoi donner de l'argent de poche à son enfant?
L'argent de poche est un exercice qui permet aux enfants de faire leurs premières expériences avec l'argent et la consommation de façon autonome. Ils doivent en effet prendre leurs responsabilités et choisir entre économiser et dépenser. Ils apprennent également à reconnaître la valeur des choses.
Combien d'argent les enfants devraient-ils recevoir et à quel âge?
Ce sont les parents qui décident combien donner. Cela doit toujours dépendre du budget familial. Ils peuvent aussi suivre les recommandations officielles qui conseillent qu'en première année scolaire, un enfant devrait recevoir 1 franc par semaine, puis 2 francs en deuxième année scolaire, etc.
Comment les enfants et les adolescents utilisent-ils leur argent?
Ça dépend. Certains enfants économisent, d'autres dépensent tout de suite. Ils s'achètent des sucreries ou des cahiers, chargent la carte prépayée de leur smartphone.
Dans quelle mesure les parents doivent-ils influencer les achats de leurs enfants?
Avant de donner de l'argent de poche à leurs enfants, il faudrait que les parents leur expliquent à quoi il est destiné. Une fois ces règles familiales établies, les enfants devraient pouvoir l'utiliser comme ils l'entendent. Les parents ne doivent jouer ici qu'un rôle de conseiller.
Que faire lorsque le budget familial ne permet pas de donner de l'argent aux enfants?
Dans ce contexte, le budget familial passe avant l'argent de poche. L'argent de poche n'est pas le seul moyen d'apprendre à gérer son argent. L'important est que les parents s'intéressent aux désirs de consommation de leurs enfants et qu'ils parlent ensemble de ce qui est réalisable et de ce qui ne l'est pas.
Vous déconseillez de punir les enfants en supprimant leur argent de poche. Pourquoi?
C'est la plupart du temps inefficace, dans la mesure où il n'y a pas de rapport direct avec le comportement. En outre, les enfants y attachent souvent peu d'importance car l'argent de poche ne représente pas un montant très élevé et ils peuvent s'en passer. Ou alors, ils changent de comportement uniquement par peur, ce qui ne fait que durcir les rapports de force entre parents et enfants. Bref, l'argent de poche ne devrait pas être utilisé comme moyen de pression.
Vous avez 40 secondes pour répondre aux questions aux affirmations de l'exercice A3. Deuxième écoute de la première partie. C'est une habitude dans la plupart des familles. Selon une étude menée en 2017 en Suisse, environ la moitié des enfants de 5 à 7 ans et 90% des enfants de 8 à 11 ans reçoivent de l'argent de poche chaque semaine. Sabrina Wachter, bonjour. Vous êtes responsable du programme Compétences financières chez Pro Juventute. Pourquoi donner de l'argent de poche à son enfant?
L'argent de poche est un exercice qui permet aux enfants de faire leurs premières expériences avec l'argent et la consommation de façon autonome. Ils doivent en effet prendre leurs responsabilités et choisir entre économiser et dépenser. Ils apprennent également à reconnaître la valeur des choses.
Combien d'argent les enfants devraient-ils recevoir et à quel âge?
Ce sont les parents qui décident combien donner. Cela doit toujours dépendre du budget familial. Ils peuvent aussi suivre les recommandations officielles qui conseillent qu'en première année scolaire, un enfant devrait recevoir 1 franc par semaine, puis 2 francs en deuxième année scolaire, etc.
Comment les enfants et les adolescents utilisent-ils leur argent?
Ça dépend. Certains enfants économisent, d'autres dépensent tout de suite. Ils s'achètent des sucreries ou des cahiers, chargent la carte prépayée de leur smartphone.
Dans quelle mesure les parents doivent-ils influencer les achats de leurs enfants?
Avant de donner de l'argent de poche à leurs enfants, il faudrait que les parents leur expliquent à quoi il est destiné. Une fois ces règles familiales établies, les enfants devraient pouvoir l'utiliser comme ils l'entendent. Les parents ne doivent jouer ici qu'un rôle de conseiller.
Que faire lorsque le budget familial ne permet pas de donner de l'argent aux enfants ?
Dans ce contexte, le budget familial passe avant l'argent de poche. L'argent de poche n'est pas le seul moyen d'apprendre à gérer son argent. L'important est que les parents s'intéressent aux désirs de consommation de leurs enfants et qu'ils parlent ensemble de ce qui est réalisable et de ce qui ne l'est pas.
Vous déconseillez de punir les enfants en supprimant leur argent de poche. Pourquoi ?
C'est la plupart du temps inefficace, dans la mesure où il n'y a pas de rapport direct avec le comportement. En outre, les enfants y attachent souvent peu d'importance, car l'argent de poche ne représente pas un montant très élevé et ils peuvent s'en passer. Ou alors, ils changent de comportement uniquement par peur, ce qui ne fait que durcir les rapports de force entre parents et enfants. Bref, l'argent de poche ne devrait pas être utilisé comme moyen de pression.
Vous avez 40 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A3. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Vous avez 30 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A4. Première écoute de la deuxième partie. La dépense principale de beaucoup de jeunes est pour le smartphone. Doivent-ils eux-mêmes payer leurs frais de téléphonie ?
Les parents peuvent, par exemple, régler les frais d'abonnement ou de la carte prépayée et laisser le jeune payer les autres dépenses téléphoniques comme l'achat de jeux ou de services de streaming.
Pro Juventute recommande un salaire jeunesse quand les enfants grandissent. Expliquez-nous la différence.
Contrairement à l'argent de poche, avec le salaire jeunesse, les adolescents gèrent leur argent pour tous leurs achats. Comme ça, ils gagnent en autonomie et ils assument la responsabilité de leurs frais courants.
Comment sait-on si son adolescent est prêt à recevoir un salaire jeunesse ?
Il est recommandé de mettre en place le salaire jeunesse avant la puberté, autrement dit vers 12 ans, quand les enfants se laissent encore volontiers accompagner et guider par leurs parents. Mais il est évidemment possible de le faire à tout moment, après cet âge.
Recommandez-vous aux parents d'ouvrir un compte jeunesse avec une carte ?
Un compte jeunesse avec une carte de débit permet aux adolescents d'acquérir de l'expérience dans ce domaine sans risque. En effet, avec un compte jeunesse, il est impossible de tomber dans le rouge. Les ados apprennent à vérifier en ligne le solde de leur compte et à le maîtriser.
Que doivent faire les parents s'ils constatent que leur enfant ne parvient pas à gérer son argent et qu'il s'endette, par exemple ?
Si l'enfant fait des erreurs, il est important de l'aider à trouver des solutions, mais en le laissant assumer les conséquences pour qu'il tire les leçons de cette situation. Avoir de petites dettes envers des amis ou des membres de la famille est, dans une certaine mesure, normal pour son âge, puisque l'enfant n'a encore que très peu ou pas d'argent. La situation est plus problématique lorsque les dettes ne peuvent plus être remboursées dans un avenir proche. Il convient dans ce cas de demander de l'aide à un professionnel.
Sabrina Wachter, merci pour cette interview. Vous avez 40 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A4. Deuxième écoute de la deuxième partie. La dépense principale de beaucoup de jeunes est pour le smartphone. Doivent-ils eux-mêmes payer leurs frais de téléphonie?
Les parents peuvent, par exemple, régler les frais d'abonnement ou de la carte prépayée et laisser le jeune payer les autres dépenses téléphoniques comme l'achat de jeux ou de services de streaming.
ProJuventute recommande un salaire jeunesse quand les enfants grandissent. Expliquez-nous la différence.
Contrairement à l'argent de poche, avec le salaire jeunesse, les adolescents gèrent leur argent pour tous leurs achats. Comme ça, ils gagnent en autonomie et ils assument la responsabilité de leurs frais courants.
Comment sait-on si son adolescent est prêt à recevoir un salaire jeunesse?
Il est recommandé de mettre en place le salaire jeunesse avant la puberté, autrement dit vers 12 ans, quand les enfants se laissent encore volontiers accompagner et guider par leurs parents. Mais il est évidemment possible de le faire à tout moment après cet âge.
Recommandez-vous aux parents d'ouvrir un compte jeunesse avec une carte?
Un compte jeunesse avec une carte de débit permet aux adolescents d'acquérir de l'expérience dans ce domaine sans risque. En effet, avec un compte jeunesse, il est impossible de tomber dans le rouge. Les ados apprennent à vérifier en ligne le solde de leur compte et à le maîtriser.
Que doivent faire les parents s'ils constatent que leur enfant ne parvient pas à gérer son argent et qu'il s'endette, par exemple?
Si l'enfant fait des erreurs, il est important de l'aider à trouver des solutions, mais en le laissant assumer les conséquences pour qu'il tire les leçons de cette situation. Avoir de petites dettes envers des amis ou des membres de la famille est, dans une certaine mesure, normal pour son âge, puisque l'enfant n'a encore que très peu ou pas d'argent. La situation est plus problématique lorsque les dettes ne peuvent plus être remboursées dans un avenir proche. Il convient, dans ce cas, de demander de l'aide à un professionnel.
Sabrina Bachta, merci pour cette interview. Vous avez 40 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A4. Fin de l'examen de compréhension auditive.